L'œil du tigre avec vous, Philippe Collin, bonsoir.
Bonsoir Mariam El Khourdi, merci à vous, bonsoir à toutes et à tous. C'est dimanche, c'est l'heure du grand fauve. À l'affiche ce soir, la France, vue du banc de touche. Let's go Marco.
Il faut que tu retrouves ce regard-là. L'œil du tigre, mec. Ouais, l'œil du tigre.
Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur.
Construire une équipe de France à son image et reconstruire l'image de l'équipe de France. Avant de penser aux actes, le sélectionneur est avant tout un homme de parole. Didier Deschamps devra trouver les mots pour transformer les individualités en collectif. C'est la principale difficulté. Le sélectionneur national est plus souvent manager qu'entraîneur. Chez les Bleus, il faut organiser les talents et gérer les égos.
Sélectionneur de l'équipe de France de football, un sacerdoce de diplomate. Gérer les égos des joueurs, certes, mais aussi plaire à la fédération et aux partenaires, ne pas se fâcher avec la presse qui vous épie, savoir contrôler sa parole et ne pas céder à la pression de millions de Français qui pensent qu'ils feraient bien mieux que vous à votre place. Sélectionneur de l'équipe de France, 120 ans d'histoire où se nichent entre eux toutes les humeurs françaises. Au programme ce soir, donc, trois invités au micro d'Inter pour ausculter ce poste étrange. Tout d'abord, Paul Dicci, historien du football. Il est professeur à l'Université de Franche-Comté. À ses côtés, Pierre Cazal, ancien collaborateur de la Fédération Française de Football et fin connaisseur de la machine. Et enfin, à mes côtés en studio, l'ombre des sélectionneurs pendant plus de 30 ans, le chef de presse, comme on dit, de l'équipe de France de football. Je suis ravi de l'accueillir, Philippe Tournon, bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue à vous.
Merci.
Et puis juste avant le journal de 19h, la victoire en chantant de Pierre-Étienne Minonzio ce soir, la mélodie du blaireau. Bernardino en chanson. Vous êtes bien sur France Inter dans l'émission qui vous raconte la grande histoire du sport. À l'affiche ce soir, sélectionneur ou l'impossibilité de contenter tout le monde.
L'œil du tigre, Philippe Collin sur France Inter.
Pour commencer, 9e jour sans trouver l'équipe en kiosque, soit la grève la plus longue dans l'histoire récente du journal. Les salariés s'affrontent à la direction qui souhaite imposer un plan d'économie et de départ, soit la suppression de 55 postes, dont 47 journalistes. L'occasion ce soir de se souvenir que l'équipe appartient à la mémoire populaire. Voici un reportage du 13h de France 2, 1995, les 50 ans du journal.
Il était une fois un grand et beau journal d'aujourd'hui qui fut d'abord un petit journal d'après-guerre. Rue du Faubourg Montmartre à Paris, un matin d'hiver, le 28 février 1946, pour un heureux événement, c'est un heureux événement, l'équipe vient de naître.
Accouchement pour le numéro 1 ? Oh, ça a été très difficile à faire parce qu'on était un commando d'équipe réduite. Moi j'étais le Benjamin de l'équipe, le plus jeune, et voyez aujourd'hui, puisque j'y vais tous les matins, j'en suis l'ancêtre, comme on dit.
Max Urbini, un spécialiste du foot, entre à l'équipe à l'âge de 20 ans. Depuis, Max a tout vu, tout lu, tout connu. Le 10, rue du Faubourg Montmartre, et les premiers grands moments du journal. Septembre 48, Cerdan devient champion du monde de boxe. L'équipe bat son premier record, un tirage exceptionnel, 823 587 exemplaires. Faut le faire. Et ça, on peut le dire qu'au fil du temps, l'équipe est devenue l'indispensable complice du sport. Août 87, l'équipe met de la couleur à la une. Août 87, on change d'époque et ça déménage des faubourgs de Paris à Issy-les-Moulineaux en banlieue. Ça a sans doute perdu de son charme, mais c'est moderne et efficace. Et ça n'empêche pas l'équipe de continuer à réaliser des exploits, comme les sportifs. Mai 93, l'Olympique de Marseille remporte la Coupe d'Europe et l'équipe tire à 983 077 exemplaires. C'est un record.
L'équipe dont le premier tirage fut de 59 723 exemplaires, l'équipe qu'on espère vite retrouver en kiosque, l'équipe qui a entretenu des rapports passionnels avec les sélectionneurs de l'équipe de France de football. Voici l'histoire du dimanche soir. Officiellement, dans l'annuaire de la Fédération Française de Football, le tout premier match des Bleus a eu lieu le 1er mai 1904 à Bruxelles contre la Belgique. Or, il s'avère que l'équipe de France de football a disputé deux matchs à Vincennes en septembre 1900. Mais comme la FIFA n'existait pas encore, ces deux matchs sont exclus, entre guillemets, des archives. Et pourtant, Eugène Fraisse peut être considéré comme le tout premier sélectionneur de l'équipe de France. Eugène Fraisse, dont on ne sait pas grand-chose. Né en 1879, il a appris le football dans un collège en Écosse avant de revenir à Paris pour être un des pionniers du football en France. La postérité lui a fait défaut, malheureusement, à l'opposé de certains de ses illustres successeurs, à commencer par celui qui a imprégné la mémoire des anciens.
Albert Batteux, un entraîneur, une cigarette, une légende du football français. 8 titres de champion de France comme entraîneur, avec Reims et Saint-Étienne, avec Hidalgo et Jacquet, encore joueur. Il a été capitaine du mythique club de Reims et a gagné la Coupe de France contre le Racing le 18 mai 1950. C'est lui qui, en 58 comme entraîneur, conduit l'équipe de France à la 3e place de la Coupe du Monde. En Suède, il révéla les Coppa, Piantoni, Fontaine, toute une génération reçue solennellement à l'Hôtel de Ville.
Paul Dicci, bonsoir. Vous êtes
oui,
là, Paul ?
Bonsoir, Philippe.
Oui, vous êtes là, Paul. Paul, vous êtes historien, spécialiste de l'histoire du football. Albert Batteux est né en 1919. Il est un des grands artisans du succès de Reims dans les années 50. Il a entraîné donc cette équipe de France entre 1955 et 1962. Son nom est assez méconnu, pas des amateurs du football bien sûr, mais dans la psyché collective, on ne connaît pas vraiment le nom d'Albert Batteux et pourtant il est important. Qu'est-ce qu'il incarne, Albert Batteux, Paul Dicci ?
Alors, il incarne d'abord la naissance du football français. Alors, autant du point de vue des résultats, comme cela a été rappelé, que du point de vue du style, finalement. Parce que jusque au milieu des années 50, le football français avait des résultats moyens, voire médiocres. Et puis surtout, il était difficilement identifiable par rapport à ses voisins. Et Batteux, qui est aussi l'entraîneur du Stade de Reims, va contribuer à inventer ce football champagne, hein, qui est un football très technique. Hein. C'est Jean-Philippe Rétaquer, le journaliste de l'équipe, qui écrivait que pour Batteux, il n'est pas de bon football sans sûreté technique. Donc ça repose d'abord sur la technique, un jeu souvent fait de passes courtes, mais qui peut aussi partir hein, dans de grandes envolées, comme celle de Just Fontaine. Bon, ce jeu de passes qui épuise l'adversaire, et qui est aussi un jeu finalement qui recherche d'abord la manière avant le résultat. Et on peut dire que pendant longtemps, l'équipe de France souffrira peut-être du syndrome de Batteux, c'est-à-dire la volonté oui. de bien jouer au risque de subir de glorieuses défaites. Et puis, il y a une autre chose qu'il faut peut-être dire, c'est que Batteux était un fin psychologue, c'était un très bon orateur, il lisait beaucoup, donc il avait aussi un charisme hein, qui compte aujourd'hui hein, pour un sélectionneur. Et puis, ce n'était qu'un homme parmi le staff de l'équipe de France, puisqu'il y avait un manager qui était Paul Nicolas, et puis il a été aidé pour la Coupe du Monde 58 par un autre grand entraîneur, Jean Snella, qui lui servait un petit peu d'observateur. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'il invente le style de l'équipe de France, et en même temps il invente une manière un petit peu rationnelle et collective de gérer le groupe de l'équipe nationale.
Philippe Tournon, est-ce que vous avez des souvenirs d'enfance d'Albert Batteux en tant qu'amateur de football, gamin ?
Oui, bien sûr. J'avais ma carte de supporter du Stade de Reims et Batteux, au même titre que Raymond Coppa, Fontaine ou Piantoni, étaient mes références de l'époque. Et j'ai eu la chance, journaliste débutant à l'équipe, de voir aussi Albert Batteux, en vrai, comme disent les gamins, entraîneur à Nancy. Donc effectivement, me trouver face à ce monument du football, c'était une grosse émotion la première fois, oui.
Alors Philippe Tournon, vous êtes vous aussi un monument du football français. Vous avez vécu 7 Coupes du Monde, 9 sélectionneurs en tant que chef de presse de l'équipe de France, ouais. De Michel Hidalgo à Didier Deschamps, c'est quand même assez incroyable. C'est une épopée dans le football français. Évidemment, ils ont tous été différents, ces sélectionneurs que vous avez côtoyés, mais est-ce qu'il y a une chose à vos yeux qui les unit ? Est-ce qu'il y a un trait de caractère ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui surgit en vous qui pourrait réunir ces 9 sélectionneurs entre Hidalgo et Didier Deschamps ?
C'est difficile, comme vous le dites à juste titre, ils sont très très différents. Je pense que ce qui les unissait, c'est ce qui peut les unir, c'est ce souci de faire gagner l'équipe de France, avec des styles différents, avec des préoccupations hiérarchisées de façon différente. Et puisqu'on partait d'Albert Batteux et très belle, très joliment évoqué. C'est vrai qu'il a créé un style qui a été à la fois la grandeur et la limite du football français parce que beaucoup se sont réfugiés derrière le style initié par Albert Batteux et le Grand Reims, fait de possession du ballon, de maîtrise technique, pour dire c'est le nec plus ultra, on est bien comme ça. Sauf que pendant ce temps-là, les autres travaillaient la formation, travaillé le côté athlétique et on s'est laissé endormir avec une petite intelligentsia, nos amis du miroir du football, qui va certainement évoquer beaucoup de souvenirs pour les personnes qui participent à cette émission. Et il a fallu l'arrivée de Georges Boulogne, instructeur national, puis premier directeur technique national, pour redonner de la consistance au football français. Alors, je suis d'accord, la technique demeure, et heureusement, l'arme absolue du footballeur. Mais si on n'a pas suivi l'évolution de la formation, de la préparation athlétique, de la capacité d'aller au duel et de les gagner, la technique ne servira pas à grand-chose.
Pierre Casal, bonsoir. Vous êtes, vous, un ancien collaborateur de la Fédération française de football et auteur d'un livre passionnant consacré au sélectionneur des Bleus depuis 1900. Et ce qui frappe, Pierre, dans votre livre, c'est d'abord la diversité des profils depuis 120 ans, bien sûr. Et puis, il y a une date charnière. Que se passe-t-il, Pierre, en 1964, dans ce métier, dans ce poste de sélectionneur? Quelle est la date charnière pour vous?
Oui, 1964 est une date charnière, tout simplement parce que les sélectionneurs ne sont plus bénévoles à partir de 1964. Et ça change absolument tout, parce que auparavant, ils étaient bénévoles, ce qui veut dire que, en fait, ils avaient une autre activité à côté. Ils ne donnaient pas tout leur temps à la sélection. Par exemple, Georges Verriest était chevillard.
Et oui.
Il s'occupait de bovins. Mm-hmm. Alex Thépot était inspecteur des douanes. Hein? Oui. Paul Nicolas était mandataire aux Halles en fruits et légumes. Alors, ils donnaient le maximum d'eux-mêmes.
Autant
mais
qu'ils pouvaient.
Ils avaient une autre activité à côté. Mm-hmm. Ça change tout.
Et qu'est-ce qui fait qu'en 64, ça change, Pierre?
Ah ben le
pourquoi
est-ce que ça change? Ben à cause des défaites.
Mm-hmm. Hein, oui,
à cause
des
défaites, la fédération en a assez. Hein, oui. La charnière, effectivement, c'est l'échec de Georges Verriest. Hein. Georges Verriest a été, le malheureux, un des sélectionneurs les plus détestés de France, un des plus injuriés, en fait, qui recevait le plus de lettres d'injure. Hein. Avant Raymond Domenech, vous voyez, c'est terrible. À tel point que une fois. Georges Verriest a fait le coup de poing avec les supporters qui le sifflaient. Il a fallu que les policiers, c'était en Italie, il a fallu que les carabinieri s'interposent pour le séparer. C'est quelque chose. Il avait perdu son sang-froid, en fait. Voilà.
Philippe Tournon, pardon.
Voilà. Donc la fédération a estimé à un moment qu'il fallait changer quelque chose et qu'il lui fallait un homme à plein temps. Et en plus, quelqu'un de compétent qui soit un entraîneur à part entière, qui ait une expérience de club. Parce que l'autre caractéristique de tous ces bénévoles, c'est qu'ils n'avaient jamais entraîné un seul club. Jamais un seul, en fait. Hein. Ils avaient joué, ils avaient été internationaux, c'est exact. Mais ils n'avaient jamais entraîné le moindre club. Ils n'avaient donc aucune connaissance de la façon dont on monte une équipe, dont on l'entraîne tactiquement. D'ailleurs, je voulais revenir un petit peu sur ce qui a été dit au propos d'Albert Batteux. Il y a une chose qu'il faut pas oublier, c'est qu'Albert Batteux n'était pas sélectionneur.
Mmh. Ouais. Oui, il était.
Justement, Albert c'est là, Batteux c'est là, était Pierre. L'entraîneur, parce qu'il y a eu une période où, après 45, les sélectionneurs ont compris qu'il fallait être accompagné par un entraîneur de profession. C'est Paul Baron, en 1949, qui a été le premier à être rémunéré, en fait ils étaient pigistes, hein, à être rémunéré match par match. Et donc avec Albert Batteux, les choses ont énormément changé en 1955 parce que c'était effectivement le meilleur et il a complètement transformé l'équipe. Mais il ne sélectionnait pas.
Mmh. Oui, c'est effectivement, Pierre a raison, c'est la bascule, c'est 64, c'est surtout la création de la fonction de sélectionneur-entraîneur. Avant, il y avait un homme qui choisissait des joueurs, et comme Pierre Casal l'a justement rappelé, il n'avait ni le temps, ni forcément la compétence de choisir les bons joueurs, et il confiait le groupe choisi à un entraîneur dont ce n'était pas forcément la même vue et les mêmes principes de jeu. Donc il y avait un hiatus entre cette personne qui sélectionnait et une autre personne qui faisait jouer l'équipe. C'était quelque chose de complètement boiteux. Et puis juste une petite anecdote sur Verriest, effectivement, que les Français ne portaient pas dans leur cœur. C'est quand même le monsieur qui avait dit un jour à Raymond Coppa « Je ne te sélectionne pas parce que tu n'entres pas dans mon système de jeu.
Oui. »
C'est quand même... Il faut oser le faire. Voilà. Et ben, Verriest avait osé.
Paul Dicci, depuis longtemps déjà, quand on les questions de l'équipe de France, on fait comme si le sort de la patrie était en jeu. Est-ce à dire qu'on confère justement à ce sélectionneur un rôle de général qui doit prouver ses aptitudes sur le champ de bataille? C'est assez curieux ce rapport qu'on a à l'équipe de France et au sélectionneur.
Oui, alors évidemment le football, c'est quand même le sport où le lien entre nation et sport est le plus fort, hein. Et puis l'équipe, évidemment, incarne en quelque sorte toutes les dimensions de la nation, et c'est particulièrement vrai en France, hein, où c'est aussi un lieu où les différentes vagues d'immigration s'illustrent. Et puis c'est aussi une métaphore qui a longtemps été utilisée, hein, dans l'entre-deux-guerres. Si vous lisez par exemple l'hebdomadaire Football, les milieux de terrain sont présentés comme des canonniers, les ailiers comme des cavaliers, etc. Bon, ce qui fait que cette métaphore, évidemment, de la guerre, elle est présente. Alors, en quoi il est général? Il est général parce qu'il définit d'une certaine manière la stratégie en termes militaires, c'est-à-dire finalement les objectifs qu'on se fixe à long terme, les moyens qu'on veut utiliser, notamment évidemment le style de jeu, le type de joueur, et puis c'est le général de la tactique, parce que le match représente la bataille en quelque sorte, et selon évidemment le terrain sur lequel on va jouer, l'adversaire, eh bien il faut adapter évidemment ses forces. Mais ce qu'on peut dire aussi aujourd'hui, c'est que, et ça ça a été un petit peu dit dans l'illustration sonore au départ, c'est que aujourd'hui le sélectionneur, il est plus, et c'est quelque chose qui s'est construit depuis une trentaine, quarante d'années, c'est plus un manager qu'un général, parce que finalement il doit peut-être davantage mettre en œuvre des ressources humaines, il doit gérer, et ça Philippe Tournon le sait mieux que moi, tout un staff dans lequel les différentes tâches sont bien définies. Donc c'est plus aujourd'hui finalement presque un chef d'entreprise, si j'ose dire, qui doit mener des hommes et se fixer un objectif, et s'il n'y arrive pas, il risque évidemment d'être limogé comme un chef d'entreprise qui n'arrive pas à ses résultats.
Philippe Tournon, vous venez de faire publier vos mémoires dans l'ombre des sélectionneurs, La vie en bleu chez Albin Michel, un récit passionnant. On pourrait y passer des heures. Il y a des choses qui m'ont attrapé l'esprit, et notamment, on fait écho là, notamment à du symbolisme, à un vocabulaire un peu guerrier. Vous racontez qu'en 1995, donc Aimé Jacquet a récupéré l'équipe de France depuis 2 ans maintenant, et il est question de se qualifier pour l'Euro 2016. C'est la mission qu'on a confiée à Aimé Jacquet lorsqu'il prend...
Lorsqu'il
prend la tête de l'équipe du monde. Et vous racontez qu'il y a eu 2 excursions à l'automne 1995, une au mémorial de Caen avec l'équipe de France, et une autre à Auschwitz parce que l'équipe de France affrontait la Pologne. Donc il y a eu 2 voyages organisés avant les matchs, j'imagine. Ouais. Est-ce que c'est Aimé Jacquet qui avait décidé de faire ces voyages-là? Qui avait décidé d'aller au mémorial de Caen et à Auschwitz-Birkenau?
Disons qu'il y avait un certain nombre de joueurs. C'est surtout la pression est venue des joueurs. Je me rappelle que Bernard Lama était très très demandeur de ce genre de voyage.
Et parce que vous racontez l'émotion qui évidemment a traversé le groupe dans ces 2 excursions.
Bien sûr, c'était des moments très 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 forts. Et là, on a vu que contrairement au portrait qu'on se plaît parfois à brosser, l'international, le professionnel de football connaît d'abord son histoire et demandeur de ce genre de pèlerinage sur des hauts lieux qui ont marqué l'histoire. C'est des moments effectivement qui restent très très présents dans la mémoire de tous ceux qui y ont participé. Oui.
J'enchaîne aussi sur une anecdote qui est très importante à mon avis, qui est consacrée à Aimé Jacquet. Toujours, on parle du sélectionneur qui doit gérer des aléas. C'est très important. Et vous racontez une histoire que je trouve très intéressante qui concerne Eric Cantona. Je vais raconter le début, vous raconterez la fin.
D'accord.
Nous sommes donc à nouveau dans ces moments qui précèdent l'Euro 96 en Angleterre, où Aimé Jacquet doit qualifier l'équipe de France. Or, à l'époque, Eric Cantona joue à Manchester United, et c'est un grand joueur. Mmh. Nous, en France, ici, on voit l'équipe du dimanche, le dimanche soir, à la télévision sur Canal+. Et effectivement, Philippe, on a affaire à des petits clips de 1 minute 30, 2 minutes, où on voit Cantona brillantissime, avec le col du maillot relevé, avec des pirouettes, des buts extraordinaires, etc. Or, il se trouve que les observateurs anglais que Jacquet a envoyé espionner, superviser les joueurs, ont un tout autre rapport à Eric Cantona. Que disent-ils à Aimé Jacquet sur ce qui se passe véritablement en Angleterre?
Ben effectivement, Eric a fait des matchs pleins, mais il lui arrivait aussi de faire des matchs moyens, c'est-à-dire d'avoir des périodes où il brillait, où il avait de ces fulgurances, de ces gestes qui ont fait sa réputation et qui sont la marque indiscutable et indiscutée d'un joueur de grand talent. Sauf que certains de ces matchs étaient assez moyens et inconstants. Donc, les observateurs donnaient cet écho à Aimé Jacquet. Eric, brillant parfois, absent parfois. Voilà.
Parfois dilettante.
Oui, parfois des fois, il semblait pas se désintéresser du jeu, mais il attendait le ballon, il participait pas pleinement à l'action.
Et donc, je continue, Philippe, parce qu'effectivement, nous, en France, on avait l'image, parce que les monteurs de Canal+ voulaient nous attirer dans leur programme.
Canal sélectionnait les highlights,
voilà,
comme on dit.
Exactement.
Et c'était les moments les plus formidables. Alors, on dit, oh, exceptionnel, Eric, encore, qu'est-ce qu'il a fait ce week-end ? Et je me souviens d'une finale de Coupe d'Angleterre que j'ai vue à Wembley avec Aimé Jacquet, où Eric Cantona était vraiment très effacé pendant au moins 60 minutes. Et à 5 minutes de la fin, il hérite d'un ballon bien pourri à l'entrée de la surface de réparation. Ouais. Mais comme c'est Eric Cantona, il se déhanche, il arrive à se rééquilibrer, à se repositionner, et il marque le but vainqueur. Alors effectivement, il donne la victoire. Et en finale de Cup, c'est quand même important, le but vainqueur. Mais reste que sur l'ensemble du match, sa prestation méritait 5 ou 6 sur 10, et pas plus, quoi.
Et ce qui est important, c'est que à ce moment-là, Aimé Jacquet compose une nouvelle équipe, à la fois avec une génération qui monte, celle de Zidane et celle qui était là avant, Cantona, voilà. Papin. Et l'enjeu, Philippe, et je reviens là-dessus, c'est important, c'est de se dire, est-ce que je prends avec moi Eric Cantona ou pas ? Or, après coup, Philippe, on a souvent dit, Aimé Jacquet a écarté les fortes têtes, les grands caractères, comme Cantona. Et parce que nous, on n'a pas compris en France à l'époque pourquoi il ne prend pas Cantona.
Mais
racontez-le, c'est passionnant.
Je raconte l'anecdote dans mon livre. Aimé Jacquet, qui avait fait de Eric Cantona le premier capitaine de son règne, après le séisme de l'élimination de 94, après ces matchs d'enfer.
Perdu contre la Bulgarie.
Israël d'abord et la Bulgarie ensuite. Il faut reconstruire. Eric Cantona est le capitaine de cette première équipe de la reconstruction qui va gagner à Naples. C'est dire que Eric avait l'équipe de France chevillée au corps et Aimé Jacquet, alors que certains joueurs avaient dit « Bon, ben moi, je joue plus en équipe de France pour l'instant. Hein, » les rats quittaient le navire. Et Eric, le premier, avait dit « On va se redresser, etc. » Donc, le temps passe. Aimé Jacquet a trouvé à peu près avec Youri Djorkaeff et Zinedine Zidane
un système de jeu.
Des créatifs, des animateurs autour d'un système de jeu. Mais il n'a pas de numéro 9. Il cherche un numéro 9.
Pas l'attaquant, donc.
Un attaquant de pointe, oui. Mm-hmm. Donc, il va en Angleterre avec Henri Émile, qui était le manager général de l'équipe. Et il pose le marché. Et clairement, Eric, il dit, écoute, Eric, j'ai trouvé avec Youri et Zizou, on a ce qu'il faut. Mais j'ai besoin d'un 9. Est-ce que tu veux jouer 9 ? Ah, Eric, coach, moi, il faut que je bouge. Je peux pas planter comme un piqué, attendre les ballons comme ça. Il faut que je bouge. Ben oui, d'accord, Eric, mais je t'interdis pas de bouger, mais simplement, je te demanderai de rester en attaquant de pointe. Et après un long silence, Eric dit non, coach, ça me va pas, je prends pas. Voilà, donc loin de la fable où Aimé Jacquet a eu peur du personnage Cantona, de la difficulté à le gérer ou je ne sais quoi. La réponse négative d'Eric sur ce point précis a fait qu'Aimé l'a pas retenu pour 96. Après, l'équipe a vécu et la génération 96 est allée vers le titre de champion du monde 98.
Et donc, il faut bien retenir que c'est Eric Cantona qui a dit non à Aimé Jacquet et non pas l'inverse. C'est très important de le redire.
Tout à fait.
Parce qu'évidemment, les médias, nous, après en France, on a été victimes d'une campagne contre Jacquet qu'on connaît bien et qui a dit
oui, puis ça fait partie de ces images, de ces histoires qui se perpétuent et sans souci d'établir la réalité.
On va faire une pause musicale avec un artiste de Nottingham, justement, en Angleterre. Il s'appelle Liam Bailey, reggae du 21e siècle, au carrefour des influences. Le titre joué ce soir, White Light.
I want you, think you can tell like we owe it to magic. Real and I like it. You act nice, hold tight.
Noël de Grèce.
11h15 ce matin, la décision tombe. Aimé Jacquet succède à Gérard Rouillet. Entraîneur national, homme du Sérail, à 52 ans, il semble posséder le profil idéal recherché.
Philippe Collin.
Joueur professionnel à Saint-Étienne puis à Lyon, entraîneur des Girondins de Bordeaux puis de Montpellier et de Nancy, ce technicien efficace et attentif a su séduire les instances dirigeantes qui l'ont élu à l'unanimité. Sa mission sera de qualifier les Bleus pour l'Euro 96, car en cas d'échec, le siège reste éjectable.
Sur France Inter.
Pour Aimé Jacquet, le siège éjectable s'est transformé en piste aux étoiles. Premier sélectionneur français à mettre la main sur le Graal le 12 juillet 1998, qui ne s'en souviendrait pas. Ce qu'on sait moins, peut-être, c'est le rôle qu'a joué dans cette affaire un entraîneur roumain des années 70. Cet ancien joueur vedette fut le catalyseur d'un autre football en France. Le docteur Kovacs est venu au chevet d'un football français mal en point. Et ce sélectionneur, né à Timișoara, a su insuffler les prémices d'une autre culture, celle de la gagne.
C'est avec l'Ajax d'Amsterdam, à l'aube des années 70, que Stefan Kovacs s'est fait connaître. Cet entraîneur roumain, apôtre d'un football total, remporte deux Coupes d'Europe avec dans son équipe le plus grand joueur du moment, un certain Johan Cruyff. De son côté, le football français va d'échec en échec. Il lui faut alors un électrochoc. Stefan Kovacs remplace Georges Boulogne à la tête de l'équipe de France. En deux ans, Kovacs cherche à imposer sa philosophie du jeu. Mais les grands joueurs français se font rares. En 15 rencontres, il utilisera 33 joueurs. Mais malheureusement, la simplicité de ses principes ne cadre pas toujours avec la complexité du jeu. Avec sérieusité, selon son propre mot, il aide au redressement de l'équipe de France. Mais il ne restera à son poste que deux ans. C'est son adjoint, Michel Hidalgo, qui lui succède avec le bonheur que l'on sait. Stefan Kovacs, lui à 54 ans, quitte alors le football international pour une semi-retraite paisible chez lui en Roumanie.
Paul Dicci, je rappelle que vous êtes historien, spécialiste de l'histoire du football. En préambule, il faut dire que la FIFA n'interdit pas qu'un sélectionneur d'une équipe nationale n'ait pas la même nationalité que la nation qui l'entraîne. C'est tout à fait possible. Or, Stefan Kovacs demeure le seul étranger à avoir occupé le poste de sélectionneur à la tête de l'équipe de France, en pleine guerre froide d'ailleurs, hein, au mi-temps des années 70. Qu'est-ce qu'en disait le dictateur Nicolae Ceaușescu? Parce que je rappelle que Stefan Kovacs était et roumain et que nous étions en pleine guerre froide. Qu'en disait Ceaușescu, Paul Dicci?
Alors, pour Ceaușescu, le sport est un moyen aussi de montrer un autre visage, un régime qui reste éminemment stalinien, parce que c'est aussi les années Kovacs, c'est aussi les années Nastase, hein, et ça précède les succès de Nadia Comăneci. Donc, il y a pour Ceaușescu un moyen d'établir des liens. L'équipe de France de rugby, à l'époque, joue un match annuel avec la Roumanie. Donc, il n'est pas opposé, évidemment, au départ. D'ailleurs, Kovacs est d'abord, avant d'être avec l'équipe de France, il est à l'Ajax Amsterdam. Il n'y est pas opposé, mais en fait, il va un peu utiliser aussi cela pour dans des relations entre la France et la Roumanie qui sont un petit peu complexes. Hein. Il y a beaucoup de dissidents, comme les écrivains Paul Goma ou Virgil Tanas, qui sont expulsés vers la France. Il y a des contentieux, notamment autour de l'église roumaine de Paris, qui est occupée par le père Boldeanu, hein, et un groupe d'opposants. Donc, Donc Ceausescu, en fait, souffle le chaud et le froid, notamment lorsqu'il est question, à la fin de la saison 73-74, du renouvellement ou du fait que Kovacs reste en France. Et en fait, c'est l'ambassadeur de France, notamment à Bucarest, qui va beaucoup plaider la cause de Kovacs et qui va rester, finalement, pour une saison supplémentaire. Donc, pour Ceausescu, il est clair que quelqu'un comme Kovacs, qui est truculent, qui est sympathique, qui d'ailleurs écrit ses mémoires en français, Football Total, qui paraissent en 75, c'est une bonne propagande à l'étranger, et il l'utilise justement dans les relations franco-roumaines, qui sont un petit peu tendues à l'époque giscardienne. D'ailleurs, Giscard reçoit à dîner Kovacs, hein, c'est un honneur insigne pour un sélectionneur de l'équipe de France à l'époque, et donc c'est un moyen évidemment de souffler le chaud et le froid dans ces relations qui sont complexes à ce moment-là.
Pierre Cazal, alors on a entendu dans le son, l'adjoint de Stéphane Kovacs s'appelle Michel Hidalgo, qui va connaître le destin que l'on sait à la tête de l'équipe de France. Mais vous précisez dans votre livre aussi que ce Kovacs, il ouvre la porte à la suite. Il est venu secouer le football français et qu'on ne peut pas complètement enlever finalement Stéphane Kovacs dans la suite des succès glanés par l'équipe de France.
Absolument. D'ailleurs, Michel Hidalgo l'a reconnu lui-même. Il a prononcé une phrase qui est la suivante à propos de Stéphane Kovacs. Il a dit « Il n'a pas eu de résultat, mais il m'a permis d'en avoir ensuite. Mm-hmm. » Ce qui est une phrase tout à fait fair-play. Hein.
Oui. Hein.
Alors, c'est important. Je pense qu'en fait, les deux hommes se sont très bien entendus. L'apport principal de Stéphane Kovacs, c'est d'avoir autopsié le football français et d'en avoir non seulement aperçu, mais dit les carences. Et la principale carence, c'était une carence athlétique. Hein, ce que Kovacs a noté tout de suite, c'est qu'on s'entraînait mal en France. On s'entraînait longtemps, mais au petit trot. Il a dit, vous pouvez vous entraîner 4 heures par jour au petit trot, ça donnera rien. Il vaut mieux que vous vous entraîniez 45 minutes à très haute intensité, ça sera différent. Et aujourd'hui, c'est ce que tous les entraîneurs pensent et font. On dit toujours, on joue comme on s'entraîne. Et inversement, on s'entraîne comme on joue. On s'entraîne aujourd'hui dans tous les clubs avec une très grande intensité parce que le rythme des matchs internationaux n'est plus le même. Hein. Je me souviens que Hugo Guez disait un moment, si les joueurs sont capables de courir 6 km ou toute vapeur, tout va bien. Mais aujourd'hui, c'est 14 km qu'on court. Mm-hmm. Dans un match de football, vous voyez,
et avec
des courses dites à haute intensité, des courses à moyenne intensité. Aujourd'hui, avec les logiciels, hein, de ce qu'on appelle de big data, on sait tout. Donc, Kovacs a fait entendre ce message, et ce message a été reçu, effectivement. Et ça, c'est très 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 important. De sa part.
Oui. Alors, dans la foulée donc de Stéphane Kovacs, Michel Hidalgo prend la tête de l'équipe de France en 1976. Il va parvenir à qualifier la France pour la Coupe du Monde 78. À l'époque, c'est une prouesse. Mais parfois, le métier de sélectionneur est très dangereux.
Et puis toujours dans le domaine des faits divers, il y a l'incroyable tentative d'enlèvement contre l'entraîneur de l'équipe de France de football, Michel Hidalgo. Alors qu'il se dirigeait en voiture vers Bordeaux ce matin, il a été agressé par deux inconnus. Hidalgo a pu les désarmer. En tout cas, dans un coup de téléphone anonyme, un correspondant a revendiqué cette agression effectuée selon lui, je cite ce communiqué anonyme, pour attirer l'attention sur l'hypocrite complicité de la France qui fournit du matériel militaire à l'Argentine.
Paul Dicci, alors cette affaire de 78 avec Hidalgo en sélection de l'équipe de France, elle raconte aussi l'époque. Est-ce que vous nous raconter un peu ce qu'il en était exactement à ce moment-là? On a du mal à imaginer ça encore aujourd'hui, un sélectionneur victime d'une tentative d'enlèvement.
Alors ça a à voir évidemment avec la Coupe du Monde organisée en Argentine et avec tout le mouvement de boycott de cette Coupe du Monde, hein, qui est lancée à partir de 76-77, contre évidemment bon un régime meurtrier, hein, qui fera plus de 30 000 morts en Argentine, et contre finalement un consensus général à part l'extrême gauche en France, des gaullistes jusqu'au Parti communiste et Georges Marchais, tout le monde s'accorde pour sur la nécessité d'aller en Argentine, notamment pour une bonne raison, c'est que l'équipe de France n'a pas été qualifiée pour une phase finale depuis 1966. On est en pleine fièvre verte, c'est aussi évidemment l'essor de cette nouvelle vedette qui est Michel Platini. Donc il y a tout d'un coup évidemment un renouveau du football français qu'on ne veut pas arrêter évidemment en allant pas en Argentine. Et puis il faut le dire aussi, c'est le moment, et ça je l'ai vécu jeune, c'est aussi le moment où la télévision vraiment s'empare du football. Il y a évidemment les albums Panini, il y a les premières formes de merchandising, donc cet événement il devient tout d'un coup beaucoup plus important qu'il n'avait été auparavant, et donc c'est évidemment une vitrine médiatique extrêmement importante pour les opposants au régime de Videla et qui espèrent se faire entendre, même si ce sont des bras cassés, hein, parce que dans l'affaire aussi, ce qui est remarquable, c'est le courage et la propos évidemment d'Hidalgo. Ça rend compte aussi d'un
qui a quand même réussi à retourner un pistolet.
Voilà, il retourne le pistolet, et puis en même temps, il se fait accompagner par sa femme à la gare, il va prendre le train pour Paris. Rien à voir, évidemment, avec le monde médiatisé et sécurisé qui est peut-être celui du football d'aujourd'hui. Mais en tout cas, si on tente de l'enlever, c'est évidemment que le football est une caisse de résonance extrêmement importante et que on cherche à se faire entendre par cette voie-là. Et 78, évidemment, c'est un moment à la fois sportif, médiatique. Finalement, tout coïncide pour que, eh bien, on tente de rappeler les crimes. Puis aussi le fait que vous avez des entreprises comme Matra qui vend des exocètes, vous avez les super étendards qui sont vendus à la junte argentine. Il y a Renault, il y a plein d'entreprises françaises mais aussi allemandes qui vont faire affaire en Argentine. Et d'ailleurs, comme d'habitude, c'est toujours le football qu'on accuse, mais pas forcément ces entreprises qui font des affaires avec les dictatures.
Philippe, ton nom, vous l'avez très bien connu, Hidalgo. C'est même lui qui vous a fait venir après la Coupe du Monde 82. C'est ce qu'on raconte. En tout cas, il dit, moi, j'ai besoin d'un attaché de presse pour l'équipe de France, tant le football
devient... Il y en avait dans toutes les grandes équipes
internationales. Et pas chez nous. Oui, et donc, il vous a appelé en tant qu'attaché de presse. Donc, vous arrivez en 83. Oui. On a le sentiment qu'il y a une grande humilité qui anime Michel Hidalgo, qui peut se retrouver chez Jacquet et Deschamps, peut-être. Est-ce que c'est pas la marque des grands aussi, la grande humilité face au poste?
Il faut être
vous n'avez pas l'air d'accord.
Il faut être, non, mais c'est complexe, c'est le problème. C'est pas une marque de fabrique. Il y a des sélectionneurs grande gueule qui ont réussi en France ou ailleurs. Mais c'est vrai que Michel Hidalgo était un humaniste. Il avait des causeries presque à vous tirer les larmes des yeux. Un jour, il a dit une bonne passe bien dans la course est comme une main tendue à un ami. C'est vrai qu'il n'y a que Michel Hidalgo qui peut inventer une phrase comme ça. Donc en termes de d'authenticité, de droiture, c'est vrai que le lien Hidalgo-Jacquet est assez crédible, tout à fait.
Et avec Deschamps?
Didier est plus... Il ne faut pas dire qu'il n'est pas droit, qu'il n'est pas loyal. Il est plus de son temps, oui. Il est beaucoup plus malin, il a beaucoup plus le... Il va détecter ce qui ne va pas avant que ce soit trop grave. Qualité que Michel Hidalgo et Méjaquet n'avaient pas forcément, parce que ce n'était pas nécessaire à leur époque. Et on a évoqué tout à l'heure la nécessité pour le sélectionneur du 21e siècle d'être un manager au sens le plus large du mot, c'est-à-dire que il doit être costaud sur le basique de sa fonction, sélectionner, entraîner, préparer et amener aux conquêtes, mais il faut aussi que sur le plan humain, la gestion de ce groupe de 50 personnes, son équipe et le staff, il faut que vis-à-vis des journalistes, vis-à-vis des sponsors, vis-à-vis des supporters, vis-à-vis des dirigeants, il soit aussi très pointu et à même de répondre à leurs attentes. Et là, Didier Deschamps a un spectre, une palette de talents inouï.
Mais c'est vrai qu'on sent à travers votre livre qu'il coche toutes les cases. Voilà, je vais y arriver. Voilà. C'est un immense coach. Et d'ailleurs, le palmarès parle pour lui.
Ça parle pour lui.
Mais est-ce qu'il a un défaut quand même, Deschamps? Est-ce que vous auriez un petit truc à dire sur Didier Deschamps quand même, Philippe Tournon?
Non, il est pas. Mais j'ai assez vanté plusieurs fois dans le bouquin le respect que l'on doit au tableau d'affichage. Oui. Avant la discussion, est-ce qu'ils ont bien joué, est-ce que le jeu ci, est-ce que le jeu ça. Donc c'est malvenu d'aller chercher un défaut. Il est parfois soyons polis, embêtant. Son souci, son souci du détail, sa volonté de ne rien ignorer, mais dans des détails qu'on n'imagine même pas, peut être perçu par ceux qui travaillent avec lui.
Vous dites qu'il a banni d'ailleurs le mot détail. Rien n'est détail. Tout est important.
Et c'est le seul des 9 sélectionneurs que j'ai les privilèges de côtoyer qui a mis son nez dans les affaires des médias et qui me demandait qui tu vas emmener au point presse. Là, celui-là, non, celui-là ne le met pas. Propose-moi un autre choix. Il ne faut pas l'exposer, celui-là, il traverse une période difficile, etc. Et je ne le reproche pas. Mais c'était une exigence supplémentaire.
Pierre Cazal, on sent dans votre récit également que ce qui compte beaucoup, beaucoup, c'est le trouver les bons mots et les bons ressorts. C'est un peu ce que raconte ici Philippe Tournon. Qu'est-ce que ça veut dire à vos yeux, trouver les bons mots et les bons ressorts pour un grand sélectionneur français ?
C'est obtenir l'adhésion des joueurs. C'est le mot le plus important, l'adhésion. Vous voyez, je crois que la chose la pire qui puisse arriver à un sélectionneur, c'est de perdre le vestiaire. Hein, c'est une formule qu'on connaît bien. Perdre le vestiaire, c'est-à-dire vous n'avez plus l'adhésion des joueurs, ils ne vous écoutent plus, ils ne respectent pas vos consignes et éventuellement ils sont irrespectueux. Donc vous voyez, l'important c'est ça, c'est obtenir l'adhésion. Et pour obtenir l'adhésion, je pense qu'il faut avoir il faut être quelqu'un de dominant. Alors dominant ne veut pas dire autoritaire, hein. La différence, elle est là. Il ne faut pas être trop autoritaire, mais il faut être dominant. Il ne faut pas que les joueurs dominent. Vous voyez ? Quand les joueurs dominent, ils sont trop importants. Eh bien, en fait, le sélectionneur se fait marcher sur les pieds, tout simplement. Et pour avoir l'adhésion, eh bien, c'est plus difficile. Mais Dominique, donc, je pense que c'est ça.
Pardon, Pierre, mais Dominique peut être qualifié de dominant, mais il avait perdu en 2010, en 2008, l'adhésion de son vestiaire. Donc, il faut être dominant, mais comme vous le disiez justement, avec les bons mots au bon moment.
Pierre Cazal ?
Je ne suis pas tout à fait sûr que Domenech ait été aussi dominant que ça. La preuve, c'est qu'il a bien été obligé de reculer devant Zinedine Zidane. Il a parfaitement compris que les personnalités de Thuram, Makelele et Zidane étaient indispensables. Et lors de la Coupe du Monde 2006, ça a été intelligent de la part de Domenech. Hein. Il a compris qu'il fallait se mettre un petit peu en arrière, bien laisser sûr. les joueurs se déterminer entre eux. Donc je ne suis pas sûr qu'il ait été dominant.
Dans son expression, dans son attitude, dans son expression, il jouait quand même les costauds.
Oui, c'est ça, mais je pense que, vous voyez, une chose qu'il a dite m'a frappé. En 2008, il a
dit...
Il a dit en 2008 que tous les emmerdeurs étaient réunis à l'Euro 2008.
Oui. Il les avait choisis.
C'est quand même un peu embêtant, parce que c'était lui qui les avait réunis. Ah oui,
sélectionneur. En tout cas, merci à vous trois d'être venus ce soir. Je rappelle que vous pouvez lire les mémoires de Philippe Tournon, c'est passionnant, Ma vie en bleu, disponible aux éditions Albin Michel. Vous pouvez lire également L'histoire des sélectionneurs, livre signé Pierre Cazal avec la collaboration de Bruno Colombari, édition Mareuil. Et enfin, procurez-vous les excellentes publications de Paul Dicci sur l'histoire du football, c'est passionnant. On va continuer en musique avec La Victoire en chantant de Pierre-Étienne Minonzio, plume de l'équipe, notre partenaire cette année. Ce soir, la mélodie du blaireau. Pierre-Étienne, bonsoir.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Alors, de qui souhaitez-vous nous parler ce soir ?
Alors, en début de semaine, je cherchais justement une idée de chronique. Quand j'ai entendu le dernier single du français Tilassine, un artiste électro d'une créativité folle. Le morceau s'appelle 1978 et figure dans la bande originale d'OVNI, la nouvelle série de Canal. Tendez l'oreille, les paroles font référence à un sportif de renom.
Donc, j'en déduis que tu veux nous parler de Bernard Hinault.
Oui, en partant de ce morceau de Tilassine, je me suis demandé si le quintuple vainqueur du Tour de France, âgé aujourd'hui de 66 ans, a été cité dans d'autres chansons. Alors, je suis d'abord tombé sur des hymnes composés à la gloire de celui qui était surnommé le blaireau, grâce à l'aide de nos amis du site Bidet Musique, spécialisé dans l'ignominie musicale.
Non, pitié, pas encore.
Et si, Philippe, sans eux, on n'aurait sans doute jamais entendu sur France Inter « C'est le blaireau » de Michel Delbecq, un titre de 1985.
Pas de potion magique pour être à la rive, il n'a que son courage. Quand le peloton rapplique,
il met le grand braquet, va donc le rattraper.
Attention, le voilà, il arrive, il est là, les amis tous avec moi. C'est blaireau, c'est blaireau, c'est blaireau, c'est blaireau que l'on préfère.
Le champion. Ah là là, Michel Delbecq, ça va être que des horreurs comme ça la chronique ou pas?
Alors j'aurais pu, mais j'ai préféré plutôt souligner que depuis qu'il a terminé sa carrière de coureur, Bernard Hinault a été cité par de nombreux chanteurs français, comme Sanseverino dans son titre jazz manouche Michto la pompe, comme le chanteur de variété Didier Barbelivien dans sa chanson Les héros de juillet, ou encore comme Abdelmalik, le chantre du slam, dans son morceau Dynamo que l'on va écoutez.
Mon staff, il a bien vu que j'étais dégoûté, alors il m'a dit, je te prends à l'arrière de mon vélo, comme ça, t'auras pas à pédaler, vu que tes plaies, elles sont pas encore vraiment cicatrisées. Je voulais refuser par fierté, mais je me suis dit, mahlish, dans ce contexte, ça voulait dire, vas-y, c'est pas grave, je m'en fiche. Alors, on s'est tous mis en mouvement, et on est partis en gueulant, quelque part, entre la horde sauvage et la guerre des boutons. C'était à l'époque, que dis-je, à la grande époque de Bernard Hinault. Ça faisait vraiment classe en ce temps-là de faire du vélo.
Je n'imaginais pas Abdelmalik nostalgique des années Hinault.
Oui, c'est le cas également de Gaëtan Roussel, le leader de Louise Attaque, qui a fait apparaître le blaireau avec d'autres grands noms du sport français dans son dernier clip « On ne meurt pas en une seule fois ». Mais ce qui m'a le plus surpris dans mes recherches, c'est que Hinault a aussi inspiré des musiciens hors de nos frontières.
À qui pensez-vous ?
Eh bien à Queen par exemple, puisque Freddie Mercury a eu l'idée de composer le single « Bicycle Race » en regardant à la télévision une étape du Tour de France 78. Une course qui avait été remportée par, devinez qui ? Bernard Hinault. Mais plus étonnant encore, j'ai découvert un charmant duo pop originaire de Madrid qui s'appelle Los Lagos de Hinault. Ce nom est une référence à une étape du Tour d'Espagne 1983. Une course qui avait été remportée par, devinez qui ? Bernard Hinault. Alors en souvenir de ce succès, je vous propose d'écouter un des tubes de Los Lagos de Hinault, El Correo del Tsar.
A mí me pasa mucho que no sé diferenciar muy bien si te echo de menos a ti o a una etapa que se fue. No te vinieron nada bien esas novelas en francés. Creíste ver algo de luz y echaste todo a perder. Ahora que...
Alors Bernard Hinault a donc influencé des musiciens très divers, on va dire.
Oui, et souvenez-vous, Philippe, de ce que j'avais dit au moment du décès de Maradona.
Oui.
On peut mesurer la postérité d'un sportif à son impact musical. Eh bien, après avoir écouté tous ces titres, on réalise à quel point Hinault fut un immense champion, qui, soit dit en passant, demeure le dernier vainqueur français du Tour de France. C'était en 1985. D'où ce message d'encouragement que j'adresse aux prometteurs cyclistes tricolores qui animent aujourd'hui le peloton. Faites tout pour remporter la grande boucle et vous obtiendrez ainsi l'immortalité musicale.
Eh bien, le message leur est transmis, Pierre-Étienne. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Salut. Et voilà, cette 19e émission, notre saison 6 a été mise en onde ce soir par H2M Henri, Marc Mutel. Merci Marco, assisté ce soir à la technique d'Arnaud Cailly. Merci à lui, merci à toute l'équipe de l'Œil du Tigre. On se retrouve la semaine prochaine avec l'histoire du Grand Prix d'Amérique. Course épique, centenaire, culture populaire, noblesse du cheval. Rendez-vous dimanche à 18h10. D'ici là, passez une excellente semaine sur Inter. Salut et fraternité.